ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et oui, derrière sa voix un peu bourrue, il n'en manque pas de tendresse. C'est le coach qu'on retrouve tout de suite. Bonjour, coach. Eh ben non, on ne vous entend pas.
Salut, gamin.
Ah, ravi de vous retrouver.
Alors, aujourd'hui, je vais rouvrir un traumatisme ancien. Chez nos auditrices et auditeurs, nous allons parler des devoirs d'école.
Aïe, ouais, pas facile.
Eh oui, une fois adulte et dégagé de l'école, les devoirs ne nous laissent que rarement de bons souvenirs. Et pour celles et ceux qui sont devenus parents, les devoirs sont régulièrement sujets de conflits avec nos enfants. En plus, moi j'en connais plein qui faisaient leurs devoirs en dernière minute dans le car, en allant au collège ou au lycée, ou même pire, qu'ils les faisaient en permanence juste avant le cours de maths. Et quand leur gamin leur donne un mot à faire signer pour travail non fait, ils se permettent de dire à leur mioche, c'est quand même pas compliqué de s'avancer dans ses devoirs pour être tranquille.
Ça je l'ai entendu.
Eh oui, et sauf que on le faisait pas, et une fois par an, on ressort la même connerie. Alors, il existe une légende urbaine qui dit que les devoirs sont interdits à l'école primaire. Pour vérifier, je suis allé consulter une source très sérieuse, le site service-public.fr. C'est une mine d'informations, ce truc-là. Eh ben, figure-toi, gamin, que la légende est en partie vraie. Depuis 1956, il est interdit aux enseignants du primaire de donner du travail scolaire écrit à la maison aux élèves. Le travail donné pour la maison doit être un travail à l'oral ou à la rigueur des leçons à apprendre. Les salopards, c'était interdit depuis 1956. Eh ben, on s'est bien fait avoir comme il faut. Tu vas me dire, dans un sens, gamin, ça nous a préparé au monde du travail. Il y a une catégorie d'enfants pour qui le travail à la maison peut vite devenir une galère et un supplice. Les enfants avec des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les enfants porteurs de dys comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc., etc. D'après l'INSERM, les enfants en âge scolaire porteurs de ces troubles sont entre 5 et 7%. Ils réussissent plus ou moins à compenser seuls les difficultés que leur pose leur fonctionnement cognitif particulier dans le système scolaire. Donc ils sont sans doute plus nombreux parce que les enfants qui réussissent à compenser suffisamment ne sont pas tous diagnostiqués. Il est important de prendre le temps de comprendre pourquoi ces enfants se retrouvent en difficulté à l'école. Le système scolaire est un moule normé où les enfants avec un fonctionnement différent se retrouvent vite en difficulté. En réalité, les troubles de l'attention, les dys, sont le fruit d'un moule trop rigide, trop carré pour des enfants qui pensent en rond. Je vous donne quelques exemples pour bien comprendre. L'apprentissage de nouvelles compétences demande un engagement important des fonctions cognitives. Et souvent, les enfants ont besoin d'engager leur esprit et leur corps dans ces apprentissages. Or, la première chose que l'on apprend aux enfants à l'école pour acquérir ces nouveaux apprentissages, c'est de le faire en restant assis et immobile. C'est un non-sens. Nous sommes tellement conditionnés par notre propre scolarité que nous exigeons de nos enfants qu'ils restent calmes et immobiles pour travailler à leur bureau, à la table familiale au moment des devoirs. On a l'impression que comme ça, ils travaillent sérieusement. Et quand ils commencent à gesticuler, nous leur reprochons de bouger alors que le mouvement du corps est un aspect normal des processus cognitifs d'apprentissage. Vous avez déjà vu, et j'imagine que toi aussi, gamin qui adore la musique, t'as déjà vu comment les musiciennes et les musiciens sont en mouvement lorsqu'ils jouent. C'est tout le corps qui accompagne les processus cognitifs à l'œuvre quand on joue d'un instrument. Ouais. Et ben pour les apprentissages, c'est la même chose. Ils ont besoin de s'ancrer dans le corps. Alors, fort de ce constat, je vous propose de tenter une expérience à la maison pour celles et ceux qui ont des enfants. Même si vos enfants n'ont pas de difficultés particulières, vous verrez une amélioration dans le temps passé aux devoirs. Laissez-les faire leurs devoirs directement par terre, au sol. sur le carrelage ou la moquette. Laissez-les faire leurs devoirs sur une table basse en étant accroupis et gesticulant sans chaise. Laissez-les faire leurs devoirs debout devant la table ou la tête en bas, peu importe. Vous verrez que leur capacité d'attention et de mobilisation n'en sera que meilleure. Déconstruisez cette fausse croyance qui dit que l'on travaille mieux en étant immobile. C'est de la crotte en barre. Les devoirs pour les enfants avec un TDAH ou les 10 restent un temps difficile, même avec ces aménagements. C'est en partie à cause de la tension qu'ils emmagasinent toute la journée en compensant leurs troubles pour s'adapter au mieux au cadre scolaire. Mais ça, nous en parlerons dans la chronique de la semaine prochaine et je vous ferai aussi des propositions pour sortir du bras de fer et de l'angoisse des devoirs avec les enfants. Prenez soin de vous mes louloutes et dites-vous que ce qui est vrai pour les enfants est vrai pour les adultes. Travailler assis et immobile, c'est vraiment pas optimum pour l'efficacité.
Très bien, merci beaucoup coach. Je me lève de ce pas pour continuer notre émission. À très bientôt.
Salut gamin.
Ensemble sur Calade.